C'est quand même un paradoxe assez dingue quand on y regarde de plus près. D'un côté, on a une puissance logistique qui est carrément capable d'expliquer à la Russie comment optimiser ses expéditions mondiales.
Ouais, c'est clair.
Et en même temps, bah, à l'intérieur de ses propres frontières, ce même pays se retrouve presque incapable d'amortir le choc pour en fait juste stocker l'essence nécessaire pour faire rouler les bus de ses propres villes. C'est un paradoxe absolu.
C'est le grand écart contemporain par excellence, en fait.
Ouais.
La mondialisation nous a vendu cette espèce d'illusion, tu sais, d'une machine parfaitement huilée où tout serait toujours disponible partout. Sauf que, bah, lorsqu'un grain de sable bloque l'engrenage à des milliers de kilomètres de là, c'est toute la mécanique locale qui s'enraye. Et ce contraste entre, d'une part, l'ambition géopolitique et d'autre part, la fragilité du quotidien, c'est précisément ce qui rend la période actuelle si complexe à décrypter.
Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Notre plongée en profondeur se base sur une vraie moisson d'informations issue du magazine iWeek dans son édition d'avril 2026.
Tout à fait.
L'objectif de notre analyse, c'est vraiment de relier les points entre des événements qui semblent totalement isolés au premier abord. On va partir du prix affolant du litre de gasoil, voyager vers la fin d'une époque un peu romantique pour les frontières de l'espace Schengen.
Ah oui, ça c'est un gros morceau.
Grave. Et puis on va analyser une offensive diplomatique en Eurasie pour finir sur le prix d'un paquet de cigarettes et des réformes institutionnelles au Maroc.
Le fil rouge de toutes ces thématiques, en fait, c'est la tension. La tension permanente entre les secousses du monde extérieur, avec ses crises imprévisibles et ses nouvelles normes, et la réalité pure et dure du terrain.
Ouais, le quotidien, quoi.
C'est ça. Comment un État protège le portefeuille, la santé et la mobilité de sa population quand les règles du jeu mondial changent, ben, toutes les semaines? C'est ce numéro d'équilibriste qu'on va observer aujourd'hui.
Alors, commençons par ce qui fait le plus mal en ce moment, le portefeuille, le choc à la pompe.
Aïe.
Quand on lit les projections d'avril de eWeek, on a vraiment l'impression de regarder un film catastrophe financière.
C'est le mot, ouais.
Le Brent a bondi de 60% en quelques semaines pour frôler les 119 dollars. La conséquence directe, on nous annonce du gasoil à 15,20 dirhams, du super à 15,30. Et on s'approche dangereusement de cette barre psychologique et financièrement dévastatrice des 18 dirhams le litre.
Et le vrai problème, au-delà du chiffre à la pompe, c'est que ce carburant, c'est le sang de l'économie.
Ouais, c'est comme un impôt invisible en fait.
Exactement. Quand le gasoil flambe, la tomate sur le marché coûte plus cher, le ciment pour construire une maison devient hors de prix. Tout est impacté.
Mais du coup, il faut bien comprendre la mécanique derrière cette explosion tarifaire. On n'est plus du tout dans une logique classique d'offre et demande, si je comprends bien.
Pas du tout, non. Le marché mondial est juste terrorisé. Entre l'élargissement du conflit au Moyen-Orient et les tensions persistantes en mer Rouge, notamment dans le fameux détroit de Bab-el-Mandeb.
Ouais, où les navires doivent faire d'immenses détours, c'est ça, hein?
Voilà. Ce qu'on paye à la pompe aujourd'hui, c'est pas seulement le coût d'extraction ou de transport du pétrole, c'est ce qu'on appelle la prime de risque géopolitique.
Attends, traduisons ça pour que ce soit bien clair.
Vas-y.
Une prime de risque géopolitique, ça veut dire que le plein est nettement plus cher aujourd'hui, non pas parce qu'il y a une pénurie réelle de pétrole à l'instant T, mais simplement parce que les marchés financiers et les assureurs ont une peur panique qu'il en manque demain. On paye littéralement pour la peur des autres.
C'est exactement ça. En fait, tu payes l'incertitude. L'assureur du pétrolier multiplie ses tarifs par 10, le transporteur répercute ce coût, et le marché anticipe une possible rupture en gonflant les prix d'achat. Le baril intègre financièrement le pire scénario possible, avant même qu'il se produise.
C'est fou.
Et le drame pour le Maroc dans tout ça, c'est l'absence totale d'amortisseur national.
Et c'est là qu'on touche à la fameuse blessure historique, l'absence de raffinage national.
Voilà, la Samir.
Ouais. Depuis la fermeture de la raffinerie Samir il y a plus de 10 ans, le pays importe des hydrocarbures déjà raffinés. On est passé d'une époque où on avait genre 60 jours de réserves stratégiques sous forme de brut
C'est ça.
à un système en flux tendu aujourd'hui. Et relancer cette machine, ça coûterait la somme astronomique de 30 milliards de dirhams.
C'est colossal, donc l'État tente d'éteindre l'incendie avec ce qu'il a. Le ministère de la Transition énergétique, avec Leila Ben Ali, assure qu'il reste 51 jours de stock pour le diesel.
Ouais, et Aziz Arhanouche garantit qu'il n'y aura pas de hausse sur le gaz butane ou l'électricité.
Tout à fait, avec des aides ciblées distribuées aux professionnels du transport. Mais bon, ça gronde au sein de l'opinion publique, hein, particulièrement contre les distributeurs locaux.
Bah, tu m'étonnes, ouais. Quand on lit que les marges brutes de ces distributeurs tournent autour de 1,48 dirhams par litre, c'est énorme. Est-ce qu'ils n'en profitent pas un peu sur le dos des consommateurs, franchement?
Alors, C'est un argument très audible sur le plan social, c'est sûr, mais il faut regarder les mathématiques de plus près.
Vas-y.
Oui, le Conseil de la concurrence surveille et constate bien ces marges brutes de 1,48 dirhams. Mais une fois qu'on enlève les frais logistiques, le stockage, la distribution, bah, la marge nette réelle tombe souvent sous la barre des 50 centimes.
D'accord.
Alors, oui, cette marge est indiscutable et génère de gros profits à l'échelle nationale, mais mathématiquement, même si le distributeur décidait de renier sa marge à zéro par pure philanthropie.
Ce qui n'arrivera jamais.
On est d'accord. Mais même si c'était le cas, ça ne compenserait pas une hausse du prix d'achat international qui prend 2 ou 3 dirhams en un mois. En fait, le distributeur, c'est un bouc émissaire facile, très visible. Mais le véritable responsable de l'incendie, il est sur les marchés mondiaux.
D'accord, je vois. Mais bon, je me mets à la place de l'automobiliste. On réclame souvent une baisse pure et simple des taxes, comme la TIC ou la TVA, qui pèsent extrêmement lourd dans le prix final.
C'est la revendication classique, oui.
Je lis dans les sources que l'Australie a carrément divisé par deux sa taxe sur les carburants pour soulager sa population. Pourquoi on ne fait pas pareil au Maroc ?
En plus, si le prix à la pompe explose, les recettes de la TVA explosent aussi proportionnellement, non ?
C'est ce qu'on pourrait croire, ouais.
Ben oui. Donc l'État s'enrichit indirectement sur cette crise. Pourquoi ne pas redistribuer ce surplus ?
C'est là que la gestion des finances publiques devient très contre-intuitive. L'idée que l'État s'enrichit grâce à l'inflation importée, c'est un mirage en fait.
Ah bon ? Certes, les recettes de TVA sur le carburant augmentent mécaniquement. Mais en parallèle, la facture énergétique globale du pays explose. Ça creuse le déficit commercial, ça pèse sur les réserves de devises.
Ah, ça renchérit le coût de tous les projets d'infrastructure de l'État aussi, j'imagine.
Exactement. Le ciment, l'acier, tout coûte plus cher pour l'État aussi. Et baisser les taxes sur le carburant de manière aveugle, c'est une mesure non ciblée.
C'est-à-dire ?
Bah, si tu baisses la taxe de 2 dirhams, tu subventionnes autant le livreur qui gagne le SMIC que le cadre supérieur qui roule en gros SUV de luxe.
Ah ouais, vu comme ça.
C'est un gouffre financier effroyable. C'est pour ça que le gouvernement a opté pour la chirurgie plutôt que pour le bazooka, en aidant directement les camions de marchandises et les bus pour éviter que l'inflation contamine le prix de la farine ou du lait.
Qui nous amène à la partie véritablement fascinante de cette analyse, je trouve. On vient de décrire un pays dépendant, vulnérable sur l'approvisionnement de son propre carburant.
Mmh.
Mais si on lève les yeux des cuves de gasoil, on découvre une toute autre réalité. Le Maroc est carrément en train de s'imposer comme un véritable maître du jeu dans la logistique mondiale.
C'est l'autre face de la pièce.
On apprend que récemment, au Forum international du transport à Saint-Pétersbourg, le ministre marocain des Transports, Abdessamad Kayour, n'y est pas allé pour demander de l'aide. Il y est allé pour faire la démonstration d'une superpuissance logistique en devenir.
Absolument. C'est une inversion totale de paradigme. Le complexe portuaire de Tangemed et la ligne à grande vitesse ne sont plus de simples outils pour le développement local.
Non, c'est devenu bien plus grand.
Ce sont devenus des produits d'exportation stratégique, de vrais arguments diplomatiques de poids. Face à une Eurasie perturbée par les crises et à une Russie qui cherche désespérément à sécuriser de nouvelles voies commerciales fiables,
le Maroc se lève et dit « En gros, on a l'infrastructure la plus performante d'Afrique et de la Méditerranée ».
C'est exactement le message.
J'adore cette ironie. On peine à affréter des navires pétroliers pour nous-mêmes de manière sécurisée, mais on vend notre expertise pour optimiser les gigantesques chaînes d'approvisionnement entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique.
C'est paradoxal, oui.
Mais est-ce que c'est pas juste une posture, tu vois ? Juste une vitrine diplomatique pour impressionner la galerie ?
Non, pas du tout. C'est la définition même de la résilience géopolitique à long terme. La géographie est un destin, on dit souvent. Et là, le Maroc utilise sa double façade maritime pour transformer sa géographie en un capital géopolitique massif.
D'accord.
Si un pays ne peut pas produire de pétrole, bah, il doit se rendre indispensable autrement. En devenant le carrefour inévitable du commerce mondial en attirant ses investisseurs, le pays s'assure que les grandes puissances ont un intérêt vital à ce que le Maroc reste stable.
Donc c'est pas de la figuration, c'est la construction d'un bouclier économique super sophistiqué.
C'est tout à fait ça.
Et cette volonté absolue de fluidifier et de moderniser les flux, ça concerne pas que les conteneurs de marchandises, ça s'applique aussi aux flux humains.
Oui, aux voyageurs.
À la façon dont nous, on traverse les frontières. On apprend une nouvelle dans ce numéro de iWeek qui m'a mis un vrai coup de vieux, je t'avoue, la fin des tampons manuels sur les passeports dans l'espace Schengen.
Fini la collection de tampons.
Ouais, ce fameux petit tampon avec son encre qui bave un peu, qui faisait la fierté des voyageurs, c'est terminé. place au basculement total vers le contrôle biométrique automatisé, empreinte digitale, reconnaissance faciale.
C'est un changement de paradigme assez vertigineux quand on y pense. La frontière n'est plus une ligne physique délimitée par une barrière et un douanier avec son tampon. C'est devenu un immense nuage de données, un algorithme.
Ouais, ça fait un peu science-fiction.
On passe d'un système où tu devais prouver qui tu es avec un morceau de papier à un système où ta biologie même confirme ton droit de passage.
Ton corps devient le passeport, en fait.
Exactement. Et l'objectif est double. Une sécurité infaillible contre la fraude documentaire et une efficacité mathématique pour traiter des millions de voyageurs sans saturer les aéroports.
Mais justement, parlons-en de cette efficacité. En voulant tout automatiser, on collecte des montagnes de données biométriques en temps réel.
C'est sûr.
Est-ce qu'on risque pas, au premier bug informatique ou à la première panne de serveur, de créer des embouteillages numériques monstres, bien pires que les longues files d'attente d'avant?
Ah, le risque de l'embouteillage numérique est hyper réel. Pendant la phase de transition, c'est indéniable.
Mais ce qui est intéressant, c'est que le Maroc anticipe déjà cette tendance. On voit l'inauguration de la nouvelle aérogare de l'aéroport de Rabat-Salé, par exemple.
Oui, l'infrastructure physique locale se métamorphose complètement pour pouvoir accueillir cette nouvelle infrastructure numérique mondiale. À terme, le système est conçu pour être invisible.
Invisible comment?
Eh bien, la nouvelle architecture des aéroports, comme celle de Rabat-Salé, n'est plus pensée autour de comptoirs d'enregistrement statiques. C'est pensée autour de couloirs intelligents, équipés de caméras biométriques qui t'identifient à la volée.
Sans même t'arrêter.
Voilà. L'enjeu technique est colossal, mais l'enjeu philosophique l'est encore plus. L'État ou l'Europe ne contrôle plus seulement ton document, il scanne ton identité biologique de manière centralisée. C'est l'ultime évolution du contrôle des flux.
Ce qui nous fait une transition vraiment parfaite vers les politiques internes du pays.
Vas-y.
Parce que si l'État se modernise pour contrôler ce qui entre et sort du pays, il raffine aussi ses méthodes pour modeler les comportements à l'intérieur même de la société.
Bien sûr.
Prenons l'exemple concret du 1er avril 2026. Nouvelle hausse des prix du tabac. L'État utilise l'arme fiscale, l'ATIC, avec un double discours.
Lequel ?
D'un côté, on décourage une addiction qui ruine le système de santé publique, et de l'autre, on renfloue généreusement les caisses de l'État.
En économie publique, on appelle ça une taxe comportementale. C'est un outil hyper puissant.
Ouais.
L'idée, c'est pas d'interdire un produit ce qui serait liberticide et franchement inefficace, mais de jouer sur son élasticité prix. On frappe directement le pouvoir d'achat pour provoquer un sevrage. Mais bon, c'est une lame à double tranchant.
Et c'est exactement ce qui m'inquiète dans cette approche.
Ah oui ?
Bah oui, pour comprendre cette dynamique fiscale, moi je vois ça un peu comme essayer de serrer une poignée de sable dans sa main.
J'aime bien l'image.
L'État serre la main avec de nouvelles taxes pour garder la santé publique sous contrôle, récupérer de l'argent. Mais si on serre trop fort, trop vite, le paquet légal devient tellement cher que le sable, c'est-à-dire les consommateurs, glisse entre les doigts et tombe directement dans le marché noir.
C'est tout à fait ça.
C'est la porte ouverte à une explosion de la contrebande, non ?
Ta métaphore du sable est parfaite. C'est littéralement le cauchemar de l'administration des douanes. Le point de bascule est extrêmement subtil.
Ouais, il faut doser.
Si la taxe est trop brutale, l'État perd sur tous les tableaux. D'abord, le consommateur continue de fumer, mais en achetant des produits de contrebande souvent bien plus toxiques et pas du tout contrôlés.
Ce qui aggrave encore plus le coût pour la santé publique, au final.
Exactement. Ensuite, les recettes fiscales légales s'effondrent. Et pour couronner le tout, l'État doit dépenser des fortunes imprévues en logistique sécuritaire pour traquer les réseaux mafieux aux frontières. C'est une équation d'une complexité redoutable.
Mais bon, tout n'est pas qu'une question de coercition ou de taxes. Il y a aussi des leviers d'action publique qui donnent des résultats assez spectaculaires.
Heureusement, oui.
C'est le grand écart marocain, encore une fois. D'un côté, cette pression quotidienne avec l'inflation, et de l'autre, des accomplissements mondiaux, presque inattendus sur le plan environnemental.
Tu penses à quoi, Evelyn ?
Ben, on lit dans les sources que plus de 95% des plages marocaines répondent désormais aux standards de qualité les plus stricts.
C'est énorme !
Et surtout, la ville de Chefchaouen vient d'être désignée par l'ONU parmi les 20 villes zéro déchet dans le monde.
Ah oui ?
Une reconnaissance de l'ONU, c'est pas rien du tout.
C'est des accomplissements majeurs qui s'intègrent en fait exactement dans la stratégie globale dont on parlait avec le port de Tangemed tout à l'heure.
C'est lié, tu penses ?
Complètement. Il ne s'agit pas juste d'écologie pour l'écologie, c'est la construction minutieuse d'une vitrine internationale. Une ville reconnue zéro déchet par l'ONU, des côtes impeccables, ça génère du soft power.
D'accord.
Le message envoyé aux investisseurs, aux touristes haut de gamme et aux talents internationaux, il est clair, nous sommes une nation moderne, organisée, capable d'atteindre les meilleurs standards mondiaux en matière de qualité de vie.
Sauf que, et c'est là qu'on redescend brutalement sur Terre, cette magnifique vitrine internationale cache parfois des fractures sociales intenses au niveau local.
Ouais, le revers de la médaille.
Quand l'économie est sous pression, souvenez-vous du carburant qui frôle les 18 dirhams, bah la rue s'échauffe.
Inévitablement.
Le magazine relate dans sa rubrique Flop l'arrestation d'un chauffeur de transport à Kenitra après une agression ultra-violente sur la route, filmée et devenue virale en quelques heures sur les réseaux sociaux.
Ce fait divers, bien que tragique à l'échelle individuelle, c'est le symptôme d'une pression beaucoup plus large.
C'est-à-dire ?
Quand le coût de la vie asphyxie le quotidien, la tension nerveuse sur l'espace public, et particulièrement sur la route, qui est un lieu de compétition pour l'espace, bah ça explose à la moindre étincelle.
Et tout le monde a une caméra dans sa poche aujourd'hui.
Exactement. Ce qui change la donne, c'est la viralité instantanée. Une simple altercation de quartier devient un événement national en quelques clics, et ça force les autorités à réagir sous la pression immédiate de l'opinion publique numérique.
Et c'est précisément ce qui rend la dernière information de notre corpus si pertinente.
La loi sur la presse.
Voilà. Mehdi Ben Saïd, le ministre de la Communication, a présenté le projet de loi 0926 qui réorganise le Conseil national de la presse suite à une décision constitutionnelle. Au début, on pourrait se demander pourquoi s'intéresser à un détail administratif sur un conseil de la presse après avoir parlé de géopolitique mondiale.
C'est vrai que ça paraît déconnecté.
Mais la réponse est là. Dans cette ère de tensions extrêmes, de frontières numériques et de vidéos virales qui enflamment l'opinion en une minute, comme l'agression de Kenitra, réguler et vérifier l'information n'est plus seulement une question de déontologie journalistique.
Non, ça va bien plus loin.
C'est devenu une question vitale de sécurité nationale et de cohésion sociale.
Absolument. L'information est devenue une arme, et surtout un vecteur de panique.
Ouais.
Si une rumeur infondée sur une pénurie d'essence ou une fausse vidéo d'agression se propage sans qu'aucune institution crédible puisse la démentir efficacement, bah c'est l'ordre public qui vacille.
C'est clair.
Donc, réorganiser le Conseil national de la presse pour lui donner une assise constitutionnelle inattaquable, c'est en réalité construire un vrai rempart institutionnel contre le chaos numérique. C'est fournir à la société une boussole fiable au milieu de la tempête.
C'est le moment parfait pour relier tous nos fils conducteurs de notre analyse d'aujourd'hui.
Allons-y.
Ce qui donne vraiment le vertige, quand on prend un peu de hauteur, c'est de voir comment un litre de gasoil à 18 dirhams, dicté par la peur en mer Rouge,
oui.
Comment un visage qui devient le seul passeport dans un aéroport européen numérisé, ou comment la taxe sur les cigarettes, comment tout ça est intimement connecté. On ne peut plus isoler les événements, en fait.
C'est impossible, oui.
La géopolitique, elle se lit plus dans des livres d'histoire. Elle se ressent chaque matin dans le budget, dans la fluidité de mouvement et dans les vidéos qui popent sur les téléphones.
Et c'est tout le sens de notre démarche analytique d'aujourd'hui. Saisir ces connexions invisibles, c'est essentiel pour comprendre le monde.
Absolument.
Comprendre que l'inflation alimentaire locale, c'est le dommage collatéral d'un conflit mondialisé, ou que la réorganisation de la presse locale est une réponse à la guerre de l'information numérique, ça permet de ne plus subir l'actualité comme une série de chocs aléatoires.
De voir la matrice, quoi.
Exactement. Ça permet de lire entre les lignes, d'anticiper les grandes tendances économiques pour son entreprise, ou simplement de mieux comprendre les choix de société qui impactent notre quotidien. C'est une grille de lecture indispensable pour naviguer dans l'incertitude.
Ne plus être un simple spectateur angoissé, mais comprendre véritablement les rouages. Et pour clôturer cette réflexion, je voudrais soumettre une idée un peu provocatrice qui émerge des contradictions qu'on a soulevées.
Oh, j'écoute.
On a bien vu le paradoxe initial, le Maroc s'est transformé en titan mondial de la logistique, capable d'influencer les flux asiatiques.
Tout à fait.
Mais tout entraînant comme un boulet sa vulnérabilité majeure, l'incapacité de raffiner son propre pétrole depuis la chute de la Samir. Tout le monde débat des milliards qu'il faudrait pour réparer cette vieille erreur.
Oui, les fameux 30 milliards.
Mais, et si la vraie stratégie d'avenir, c'était pas du tout de réparer le passé ? Et si, au lieu de s'épuiser à relancer une industrie fossile d'hier, l'idée de génie, c'était de court-circuiter complètement l'ère du pétrole ?
Ah, la perspective est audacieuse, c'est sûr. Mais en fait, elle est très cohérente.
N'est-ce pas ?
Quand on observe les investissements massifs du pays dans les énergies renouvelables, on comprend bien le pivot. Imagine un futur proche où cette fantastique machine logistique, ses ports en eau profonde, ses corridors,
ouais.
Ils ne servent plus à supplier pour obtenir des hydrocarbures, mais ils sont réquisitionnés pour exporter de l'énergie verte.
C'est ça.
Du solaire, de l'éolien, de l'hydrogène vert, expédiés massivement vers une Europe en pleine transition.
Transformer sa pierre faille historique en sa plus grande arme géopolitique de demain.
Exactement. Ne plus être l'otage des chocs pétroliers, mais devenir le hub incontournable de l'énergie propre mondiale. De quoi complètement redistribuer les cartes du pouvoir.
C'est une réflexion qui donne le vertige et qui méritera qu'on garde un œil très attentif sur les prochaines évolutions. Sur ce, la machine est bien relancée et le cap est fixé pour l'avenir. Merci d'avoir suivi cette plongée en profondeur avec nous.